Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour notre émission encore une fois avec Christiane Hervault au micro et aujourd'hui avec Daniel Cagnat.
Oui.
Bonjour Monsieur Cagnat.
Bonjour Christiane.
Merci d'être avec moi pour cette émission. Je vous présente un petit peu puisque nous avons bavardé au téléphone, nous avons essayé de nous présenter parce que nous ne connaissons pas encore. Nous faisons connaissance donc pendant cette émission et vous étiez enseignant en primaire,
oui.
M'avez-vous dit. Et maintenant que vous êtes à la retraite, déjà depuis un certain temps je crois, vous vous intéressez à la botanique. Et vous faites partie de la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes et du Gard,
oui.
Qui se trouve dans les locaux du muséum.
Son siège là-bas, oui.
Si j'ai bien compris. Et donc, je vais vous dire quelques mots sur le muséum. Et puis, je me permettrai de vous demander de me parler un petit peu de la Société d'études, puisque vous la connaissez bien déjà. Alors, le muséum a été inauguré en 1895. Il est classé au 6e rang national pour la richesse de ses collections.
Tout à fait.
Mmh. Il est installé autour d'un cloître et d'une chapelle classée du XVIIe siècle. Il conserve des milliers de pièces dans tous les domaines des sciences de la nature et certains secteurs des sciences de l'homme. Et dans l'attente d'une rénovation, il y a 4 thématiques qui sont présentées au public. La préhistoire locale, la géologie du sud de la France, l'ethnographie à l'aune des années 30 et la zoologie.
Oui.
Alors voilà, aujourd'hui le muséum de Nîmes regroupe donc ces 2 entités, le musée d'histoire naturelle et le planétarium. Ce muséum propose des animations, des expositions, tout au long de l'année au musée, à la galerie Jules Salle ou à la galerie Courbet. Les expositions temporaires et les nombreux ateliers scientifiques font du site nîmois un haut lieu de la culture scientifique régionale. Et si vous voulez y aller, ben il se situe au 13 boulevard Amiral Courbet à Nîmes. Voilà en ce qui concerne le muséum. Et à l'intérieur de ce muséum, il y a la Société d'études des sciences naturelles de Nîmes et du Gard, dont vous faites partie.
Oui, je dirais même à l'origine du muséum, parce que la société d'études s'est constituée en 1871 par quelques jeunes personnes qui s'intéressaient aux sciences de la nature, qui s'intéressaient à la nature, aux sciences de la nature, et puis découvrir la nature dans le Gard et même dans les départements alentours, la faire découvrir, mieux la connaître et diffuser les connaissances qu'ils avaient acquises dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, nous avons encore une activité commune avec le muséum qui s'appelle Sauvage de ma rue et qui, une fois par mois, un jeudi matin, voilà, par une déambulation dans une rue, dans un quartier de Nîmes, on va essayer de recenser les diverses plantes qui poussent là, au pied des murs, sur les bordures de trottoirs, etc. Et Sauvage de ma rue, c'est une opération nationale qui est pilotée au départ par le Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, toutes ces données que l'on collecte dans toute la France sont ensuite enregistrées dans une base de données et elles servent de base aussi à des chercheurs qui s'intéressent un peu au développement de la flore et puis à la fois urbaine, mais à la fois périurbaine. Voilà.
D'accord, très bien.
Voilà.
Ah ben je ne savais pas du tout ça. Voilà. Et voyez, vous nous l'apprenez. Et
voilà.
Si les personnes sont intéressées, peuvent demander à la Société d'études naturelles de faire partie d'un groupe.
Ou téléphoner directement au musée.
D'accord.
Ils connaîtront les dates de nos sorties et puis les lieux où on se rendra. Mais on cherche toujours à trouver un endroit qui soit aussi accessible par le bus ou facilement, voilà, hein, pour que toutes les personnes, même si elles ne conduisent pas, puissent s'y rendre, voilà. Voilà. Et la dizaine d'années qu'on propose cette activité, on a recensé plus de 3000 observations qui ont permis de recenser à peu près 490 espèces de plantes.
Ah, quand même.
Dans les, voilà, dans les rues, les places.
Tout ça dans les rues.
Dans les rues, dans les places, voilà.
Le à moindre, portée de nous.
Voilà,
à le on n'a qu'à regarder. On,
et voilà.
C'est ce ça.
Et voilà, est-ce que c'est ce qu'on oublie de faire?
Il faut savoir regarder.
Voilà, c'est ce qu'on oublie de faire.
Et vous-même, vous avez une fonction particulière à ces sociétés d'études?
Alors moi, je suis le président depuis 5 ans.
Ah, et bien voilà.
Voilà, je suis le
j'avais
président.
J'avais pas encore dit ça, mais vous ne me l'aviez pas dit au téléphone.
Non, voilà, voilà, je suis le président depuis 5 ans, mais bon, on est une équipe avec diverses compétences et c'est ça qui fait notre richesse. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Alors, voilà, on a fait connaissance un petit peu, un tout petit peu avec cette société d'études et avec le musée d'histoire naturelle, mais ce n'est pas exactement pour ça que je vous ai invité. Et mais il y a bien sûr un lien tout à fait évident. C'est parce que pour la journée du patrimoine du samedi 21 septembre, vous avez présenté les arbres du cimetière protestant de Nîmes. Mmh. Et avant de parler longuement de cela, je vais vous donner quelques indications quand même sur ce cimetière. Je vous lis ce que Jean Fleury, auteur du livre « Lumineuses ténèbres » et animateur de l'émission « Les chemins de l'histoire » sur Radio Alliance Plus, avec sa femme Danielle, voici ce qu'il nous en dit. « C'est un cimetière riche d'une longue histoire. » La première inhumation a eu lieu en 1782, en pleine terre, directement dans le linceul. Elles se sont poursuivies avec ou sans cercueil, dans des fosses communes, puis sous forme individuelle. Des personnalités historiques reposent sous ces arbres. Louis Rossel, acteur majeur de la Commune de Paris, l'économiste Charles Gide, Samuel Vincent et le poète Antoine Bigot. Ce cimetière est la propriété privée de l'Église protestante unie de Nîmes. C'est un espace immense, nous en reparlerons, et on peut se ressourcer en marchant ou bien en s'asseyant sur le bord d'une pierre. C'est ce que nous dit Jean Fleury, parce que lui-même l'a vécu. Et donc ce cimetière, il se situe 17 route d'Alès à Nîmes, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Et il est assez fameux, Daniel Cagnat. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation de Jean Fleury? Par rapport au cimetière où on peut aller se promener, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je suis complètement tout à fait d'accord avec lui. Je souscris tout à fait aux propos que vous venez de dire là. Mais je l'ai découvert avec surprise de voir que c'était un oasis de biodiversité en pleine ville pratiquement. Hein. Parce qu'il y a alors, on voit qu'il est entretenu parce que les arbustes autour des allées sont taillés, c'est propre. Mais on a laissé quand même la végétation se développer. Et d'après ce qu'on m'a dit, il y avait une tradition de planter un arbre autour des tombes des personnes qui avaient leur sépulture là. Et je veux dire, depuis cette époque-là, ces arbres ont pris une importance. À la fois esthétique et à la fois par leur dimension. Quoi.
Voilà. Combien il fait de surface, ce cimetière?
Ah, ça, je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Non, ça, je ne sais pas.
Alors, Jean Fleury, il a dit 5 hectares.
Ah oui, d'accord.
Environ 5 hectares. Donc, c'est un grand...
Alors, quand on chemine, on voit qu'on chemine... Mais quand on le voit, on n'a pas cette impression d'espace libéré parce qu'il y a beaucoup de végétation. Oui. Mais quand on chemine... On voit que c'est grand, quoi. Oui. Entre l'entrée et le coin, l'angle supérieur là-bas où il y a cette chapelle du désert, là où. Oui. Cette sacristie du désert, je crois, oui. Je veux dire, il y a de la distance, oui.
Donc, c'est un grand ensemble
oui.
de sépultures et d'arbres, et d'arbres magnifiques.
Oui.
Alors, c'est de cela que nous allons parler spécialement. Quels arbres remarquables il y a à voir?
Alors, d'abord, il y a beaucoup de micocouliers. Mais bon, ça, le micocoulier, c'est habituel parce que ça fait des petites baies, ça fait des baies qui sont le régal des oiseaux et les oiseaux les disséminent un peu partout. Oui. Mais après, il y a quelques arbres qui ont été plantés et qui. Alors, je pense que ça reprend une tradition du milieu du 19e siècle. Et vous savez, c'était l'époque de l'exploration en Amérique, en Amérique du Nord, bon, donc les colons s'étendaient vers la Californie. Il y avait des grandes expéditions en Chine, au Japon, en Extrême-Orient. Et on découvrait la flore de ces contrées-là. Et il y a eu, je sais pas, beaucoup de collectifs, beaucoup. Alors, au point de vue botanique, des jardins botaniques, on peut les en replanter, mais même des particuliers qui avaient les moyens de se déplacer professionnellement et ramener des plantes de ces contrées-là.
De quelles contrées il s'agit alors ?
Alors là, ce qu'on a vu, c'est de Californie. On a vu de Chine, on a vu du sud de l'Espagne, voilà, du Japon, voilà ce qu'on a. Voilà.
D'accord. Donc ils sont classés, ces arbres, ils sont connus en tant que tels.
Alors ces arbres, ils ont été décrits sur le plan botanique. Hein, voilà, donc ils appartiennent à la flore intermondiale. Hein,
oui.
Donc ils sont connus. Donc
ils sont bien connus.
Ils sont connus. Ils ont été décrits. On leur a donné un nom botanique. Voilà.
Quoi est-ce qu'ils sont remarquables alors ?
Alors ceux-là, ils sont remarquables par leur. D'abord, moi, je trouve esthétiquement, ce sont de beaux arbres hein, quand vous voyez. Mais en plus, ça doit être des arbres qui ont à peu près plus de 100 ans, quoi, au moins autour de 150 ans, hein, parce qu'on en a vu autour de tombes qui dataient des années 1850. Voilà. Donc, ils ont à la fois en hauteur et à la fois en circonférence.
Hein, voilà. Donc, quand on les côtoie, ces arbres, voilà. Ils ont été mis spécialement à certaines tombes parce que c'était les défunts qui le voulaient, ou bien ça a été selon les possibilités, d'après vous ?
Non, je pense que c'est les défunts qui les ont... les ont installés, qui les ont fait planter là, autour de leur sépulture.
Qui les ont importés, ou les familles qui ont
voilà,
voulu
oui, oui.
que ça soit
oui,
là.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Par exemple, il y a un arbre. Bon, c'est pas un arbre, parce qu'il va pas dépasser 2 mètres et demi, 3 mètres de hauteur. C'est un xanto. Alors, son nom latin, j'ai pas vu trouver de nom français pour cet arbre. C'est Xanthoceros sorbifolium. Alors, xanto, c'est jaune, le jaune, parce que les racines sont jaunes. C'est rose parce qu'à la base des pétales des feuilles, des pétales des fleurs, il y a une espèce de protubérance cornée. Voilà, donc c'est de là que vient son nom, Xanthoceros. Sorbifolium, parce qu'il a des feuilles qui ressemblent aux feuilles du sorbier.
Hein?
Alors, c'est un arbre assez original, qui fait de très belles fleurs au printemps, à 5 pétales. Et là, en ce moment, il est en fruits. Or, les fruits, ce sont des capsules un peu plus grosses qu'une taille de ping-pong, vous voyez, jaunes, et qui s'ouvrent en 3 parties. Et à l'intérieur, il y a de grosses graines, il y a une dizaine de grosses graines. Donc là, on a vu les graines, certains en ont ramassé pour essayer de les replanter, pour voir, essayer de faire germer. Et alors ça, c'est un arbre qui vient de Chine et qui a été décrit dans les années 1830 par un botaniste allemand qui avait été envoyé là par le tsar de Russie, vous voyez, pour explorer un peu le nord de la Chine. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, on pense que la personne qui l'a fait mettre sur sa tombe soit a passé une partie de sa vie en Chine ou au Japon et l'a ramené... Voilà.
Il y a peut-être d'autres livres historiques, ceux-là, qui peut-être pourraient aider aussi à comprendre comment c'est arrivé.
Voilà,
mais
voilà.
ce n'est pas notre propos. Pour nous, pour l'instant, je vous propose de faire une petite pause de musique.
Oui.
Et vous nous avez proposé « Auprès de mon arbre ». Alors,
voilà,
nous allons l'écouter. Puis nous reviendrons pour que vous nous disiez s'il y a d'autres curiosités.
Oui.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, 103.2, et vous nous écoutez peut-être en DAB+, mais vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur radioallianceplus.fr et regarder toutes nos émissions à cette occasion. Alors, je suis avec Daniel Cagna, qui est spécialiste en botanique, un petit peu, qui fait partie de la Société d'études des sciences naturelles et de Nîmes et du Gard, et qui a, à l'occasion des Journées du patrimoine, a parlé des arbres remarquables du cimetière protestant de Nîmes. Pour terminer notre émission, j'aimerais que vous nous disiez s'il y a d'autres plantes ou d'autres choses moins grandes peut-être à observer en hauteur, mais peut-être plus bas. Il y a certaines plantes qui sont un peu aussi particulières.
Alors, une première chose qu'on a faite, comme ce sont des arbres remarquables et qu'il y a un inventaire mondial des arbres, Monsieur Galzin m'avait présenté un cyprès comme étant le plus grand du cimetière. Donc, à cette occasion-là, avec les participants, on a mesuré la circonférence de ce cyprès, qui fait un peu plus de 1,76 m de circonférence. Et alors, j'ai regardé sur cet inventaire et il pourrait y figurer. Voilà. Après, on a regardé des arbres, mais bon, une déambulation naturaliste, c'est en même temps avoir l'œil un peu... Alors, j'avais remarqué sur un tronc de micocoulier une plante très particulière et qui est pratiquement que peu de personnes connaissent, qui est une hépatique. Donc, c'est une plante, une des premières plantes qui sont apparues sur Terre il y a 400 millions d'années, et qui fait partie un peu de ce grand groupe des mousses. Et c'est une plante dont on ne voit que les ramifications sur le tronc des arbres, avec de toutes petites feuilles. Donc j'ai fait découvrir un peu ce genre de plante qui est pratiquement inconnue du public. Uh-huh. Quoi. Voilà.
Je pense que les personnes ont été bien étonnées et curieuses de voir tout ce qu'il peut y avoir dans ce site.
Ah oui, 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 oui. Alors, on a, voilà, bon, en marchant comme ça, bon, il se trouve que sur une tombe, il y avait un petit escargot qu'on appelle la Closélie. Et quand j'ai dit ce mot-là, les Nîmois se rappellent de la Closélie romaine qu'il y a dans les arènes de Nîmes. Hein, donc, cette Closélie qui est dans les arènes de Nîmes est particulière, mais dans la nature, sur les falaises de calcaire ou même sur ces tombes, parce qu'elles sont en calcaire, on trouve aussi ce petit escargot qui mesure pas plus d'un centimètre de long et qu'on ne remarque pas. Mais voilà.
Voilà, donc c'est d'où l'utilité de cette promenade que vous avez faite en particulier.
Voilà.
Et nous, tout ce que nous pouvons dire peut-être pour terminer cette émission, c'est d'inviter les personnes à aller se promener dans le cimetière. Oui. Après tout, c'est peut-être pas un lieu auquel on penserait, mais c'est un lieu très calme et très intéressant aussi, où il faut bien regarder et observer et se faire du bien, regarder les merveilles de la nature.
Voilà. Mais une des participantes qui est intervenue là pendant la visite, parce qu'il y a un sapin qu'on appelle sapin d'Andalousie, et qui vient du sud de l'Espagne, et qui vient du nord du Maroc. Et on se demandait comment un sapin d'Espagne, d'Andalousie, pouvait venir. Donc c'est là que cette personne m'a fait remarquer qu'à l'époque, il y avait entre Cadix et certains protestants de Nîmes des relations commerciales. Donc peut-être que une personnalité protestante de Nîmes s'est retrouvée là-bas et a pu... cet arbre lui a plu et a voulu...
Oui, je pense que c'est vrai que beaucoup de protestants ont une histoire au-delà de Nîmes. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont enrichis et qu'ils ont enrichi notre cimetière, le cimetière protestant de Nîmes, que je vous invite à visiter, chers auditeurs et auditrices. Dans cette visite du cimetière protestant de Nîmes, donc, il y a un arbre en particulier dont vous vouliez encore me parler, qui vient aussi de très loin. Donc, dites-nous en plus sur cet arbre.
Je vais vous dire un mot sur le cèdre de l'Himalaya. Donc, c'est Cedrus deodara, son nom latin. Et donc, c'était un arbre sacré. C'était un arbre divin dans cette partie de l'Inde himalayenne. Et deodara, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a la racine déo.
Ah oui, effectivement.
Voilà, et c'est un mot qui vient du sanskrit, hein, qui était Deodara, qui voulait dire divin. Voilà. Et donc, le botaniste qui l'a décrit a conservé cette partie de son nom vernaculaire dans la région où il était, où il croissait.
Et donc, il avait une fonction sacrée. On le vénérait.
Voilà, oui, d'accord. Voilà, oui. Oui, c'était un arbre qui est imposant par son port, hein, mais qui dans les forêts himalayennes, avait un rôle un peu particulier.
Comment est-ce qu'il est pour qu'on puisse le reconnaître si on va
il est, je ne sais pas si vous voyez où est la tombe de la statue de Pradier là qui est sur un voilà. Donc, en continuant dans cet ordre-là, alors c'est un arbre déjà qui fait à peu près 2 mètres de circonférence. Si vous savez reconnaître un cèdre à la disposition de ses aiguilles un peu en faisceau, en bouquet, donc vous retrouverez cette disposition d'aiguilles, mais elles sont plus claires, elles sont plus longues, et les rameaux, à la fin, les rameaux de l'année sont plutôt tombants. Donc, il est à l'angle d'une allée.
D'accord. Voilà. Eh bien, voilà. Si vous allez vous promener dans le cimetière, décidément, on vous donne des drôles de conseils, hein, amis auditeurs et auditrices. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Daniel Cagna, nous vous remercions pour cette traversée botanique.
Voilà.
Et nous invitons les personnes à se faire du bien dans ce beau cimetière.
Je confirme que c'est à voir.
Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices.